Bien chers frères, mes bien chères sœurs, bon après-midi. Et nous voilà arrivés à la quatrième et dernière cassette de cette série sur le « Aimons-nous les uns les autres ». Nous avions jusqu'ici atteint la neuvième partie, section A, et nous voici maintenant à la section B, qui nous invite à avoir une grande ouverture d'esprit et de cœur, au crescendo éventuel, sans précédent en Église, de diversité extraordinaire d'ordre spirituel et mystique qui s'en viennent. Et je vous réfère au document annexe D, et rapidement nous allons jeter un coup d'œil là-dessus. C'est un schéma qui nous permet, dans la première partie, selon notre champ visuel actuel, de constater trois choses. Et on commence la lecture du triangle par en bas. Vous voyez que, au premier niveau, les gens ne posent pas de problème sur la diversité d'ordre de la nature. Il n'y a pas de limite. Les gens aiment bien qu'il y ait des insectes de toutes les sortes, des fleurs, des plantes, des fruits. Amenez-en, il n'y a pas d'objection à la grande diversité de la nature. Mais si on remonte dans le triangle, à mi-chemin, les gens commencent déjà à avoir un champ visuel un peu plus restreint quand il s'agit des diversités entre les humains. On est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait différents caractères, tempéraments, personnalités, des gens de différentes couleurs, de différentes races, un peu de diversité, ça fait du bien. Mais là, il n'y en faut pas trop. Et finalement, en haut du triangle, où c'est le plus étroit, ben, ça illustre que dans le domaine des diversités d'ordre spirituel, on n'en veut pas trop. On en est venu à croire que notre cheminement, notre salut, eh bien, c'est comme ça que les autres doivent se sauver et doivent procéder. Donc, plus c'est exigeant, plus notre champ visuel se restreint. Et, passons à la deuxième partie du schéma, le Seigneur nous demande de renverser la pyramide. Il nous montre que, en commençant par en bas, encore une fois, il n'a vraiment pas épuisé sa puissance dans la diversité de l'ordre de la création. Pour lui, là, les diversités qu'on trouve extraordinaires dans la création, c'est encore rien. À comparer, deuxièmement, des diversités qu'il a réussi à mettre dans les êtres humains, beaucoup plus que dans la nature créée, la nature physique, matérielle, le monde, l'univers créé. Chez les humains, le Seigneur a mis encore beaucoup plus de diversité que dans la nature matérielle. Mais là où il nous réserve la grande surprise, et c'est pour ça qu'il a demandé de ne pas fermer le triangle, c'est que les diversités d'ordre spirituel vont aller vers l'infini, et nous donner des chefs-d'œuvre de sainteté à travers chaque être élu et sanctifié au ciel et dans l'éternité. Donc, il faut donc commencer à s'intéresser sérieusement aux diversités nouvelles d'ordre spirituel, même extraordinaire. Du moins de prime abord, et jusqu'à ce qu'un discernement spirituel sérieux nous donne la preuve évidente du contraire. Mais avec ce qui s'en vient au cours de cette prochaine décennie, et on est engagé, on est en 91, donc au cours de cette décennie, on a absolument besoin d'élargir notre champ visuel spirituel et de développer une beaucoup plus grande acuité visuelle et auditive spirituelle. car on va en voir et en entendre des inédites, des ineffables, des indescriptibles de plus en plus, spirituellement parlant. Il nous faut donc travailler à recouvrer notre sens de l'admiration, de l'émerveillement, de la découverte spirituelle, hélas si souvent sclérosée. Ces jours derniers, la liturgie de la parole nous évoquait les réactions de Moïse, qui tout à coup voit un ange du Seigneur qui lui apparaît au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson, Exode 3. Et Moïse, confronté pour la première fois par un tel tableau, assez hors de l'ordinaire, avouons-le, ne panique pas, ne fuit pas. L'Exode, le livre de l'Exode, nous dit qu'il est même intrigué par le fait, hors série, de voir le buisson qui brûlait sans se consumer. Et je cite, « Moïse regarda et se dit alors en lui-même, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. » Et le Seigneur, qui a connaissance de son esprit de curiosité, l'appelle. Puis lui révèle qu'il doit retirer ses sandales, car il est en une terre sainte. Et Moïse, par respect, toujours sans peur, très calme, approche en se couvrant le visage, et c'est alors que tout éclate. Il reçoit sa grande mission, celle d'aller auprès du Pharaon pour sauver d'Égypte les fils d'Israël. Donc, voyez, Moïse est ébloui par l'extraordinaire. Il reste dans l'attente, satisfait sa curiosité, il écoute, il discerne, il ne part pas en peur. Voilà sa contribution. Et il attend. Et tout à coup, il gagne le gros lot de la part du Seigneur, son appel, sa mission et la bénédiction de Dieu. C'est un peu comme aujourd'hui même, tout à l'heure, en célébrant l'Eucharistie, vous avez noté ce texte où Jésus étonnait par sa sagesse dans la synagogue. Et alors, les gens, au lieu de s'arrêter devant l'extraordinaire, commencent à questionner, à douter d'où lui viennent cette sagesse, ces miracles. N'est-il pas le fils du charpentier? Est-ce que sa mère ne s'appelle pas Marie, ses frères, ses sœurs? Est-ce que ce n'est pas des gens de chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Immédiatement, ils essaient d'étouffer l'extraordinaire. Eh bien, si l'on fait la transposition avec ce tableau d'un ange qui apparaît au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson, avec ce qui se passe de nos jours, dès que quelque chose de nouveau sort de l'ordinaire, avec un petit O, et ne sort pas de l'ordinaire du lieu avec un grand O, c'est le jour et la nuit. Et toute comparaison faite, devant un buisson qui brûle sans se consumer, de nos jours, on aurait tôt fait d'appeler les sapeurs-pompiers et de faire évacuer cette terre sainte, sans penser que peut-être une très grande grâce nous sollicitait à travers cet événement extraordinaire. À la lumière de mon ministère et à l'expérience en particulier des 15 dernières années aux fondations, grâce au discernement spirituel continu, je me rends compte que sur 100 cas extraordinaires de nouveautés spirituelles exceptionnelles, à peine 5, 10, allons jusqu'à 15%, sont des diversités douteuses. Soit des charismes imaginaires, des inspirations qui sont plutôt des intuitions, des dons, des visions, des déclarations prophétiques, dont je suis personnellement porté à peut-être mettre de côté. Mais un bon 85% sont authentiques. Or, mes amis, chez beaucoup de pasteurs qui discernent peu ou pas, spirituellement et ni communautairement, mais seulement humainement, pour ne pas dire au pifomètre, au simple flair, à vue de nez, c'est l'inverse. Ils en déclassent 85 à 90 % et n'en accueillent, quand ils finissent par en accueillir, que 5, 10 ou 15 % tout au plus. Et pourquoi? Parce qu'ils sont à la course. Parce qu'ils manquent de connaissances ou d'expérience personnelle dans les domaines mystiques, prophétiques, charismatiques. Parce qu'ils ont peur du risque, ils ont peur du nouveau, du trop interpellant, et ne font pas vraiment de discernement spirituel. Mes amis, à compter de maintenant, je vous en supplie, il va falloir renverser les proportions et accueillir, jusqu'à preuve du contraire, après discernement, ça c'est entendu, je le maintiens, un bon 85 à 90 % des nouveautés, des diversités spirituelles, même extraordinaires, et se résigner à en débouter peut-être de 5 à 15 %. D'ailleurs, remarquez bien, on en aura de moins en moins le choix. Car les charismes et les dons vont être à ce point percutants qu'ils vont se prouver eux-mêmes et confondre ceux qui vont les rejeter ou même hésiter à les accueillir. L'Esprit du Seigneur aura de moins en moins besoin de nos platchettes. Et le peuple, travaillé par l'Esprit du Seigneur, passera outre de plus en plus facilement à nos hésitations et nos complications de pasteurs. En jeu de mots, je dirais que c'est un sens nouveau à donner à l'expression « outre nouvelle », cette capacité de passer outre aux lacunes des pasteurs, qui sera d'ailleurs un signe de grande maturité et d'autonomie spirituelle dans le peuple. Or, mes chers amis, croyez-moi, on n'a encore rien vu de notre génération en fait de cheminement spirituel nouveau, de voix V-O-I-E-S et V-O-I-X-X mystérieuses du Seigneur, de dons et de charismes hors série et percutants. On va assister à la déroute du régiment des braves, ou de nos soi-disant braves en Église, et à la poussée en avant et victorieuse de nos masses de soi-disant timorés, faibles jusqu'ici, du moins apparemment. La vraie bravoure spirituelle, cette fois, va changer de camp. Bien entendu, cela va exiger en Église toute une éducation qui devra se faire rapidement et intensivement, et qu'on ne donne pas présentement, et pour laquelle les éducateurs vont être rarissimes. Il faudra d'abord éduquer les titulaires ou récipiendaires de ces diversités spirituelles pour qu'ils les accueillent avec humilité, simplicité, discrétion, ne pas en parler à tout le monde, ne pas s'enorgueillir de ce qui leur arrive, et surtout ne pas croire que c'est un signe ou un fruit de leur sainteté. Apprendre également à se faire discerner pour ne pas vivre dans l'illusion. Il faudra ensuite éduquer l'ensemble des fidèles à bien discerner ces diversités spirituelles, à les accueillir avec joie, à ne pas les comparer, à ne pas jalouser, envier, mais au contraire à rendre grâce au Seigneur pour tous ses dons spirituels. Et enfin, nous éduquer à vivre avec cette surabondance de diversité spirituelle en tant qu'Église. tout en respectant la hiérarchie comme il se doit, pouvoir capter à travers ces grâces spirituelles qui vont fuser de toutes parts l'œuvre de l'Esprit du Seigneur parmi nous. Alors, j'insiste en terminant, bien entendu, demeure intacte, je dirais encore plus important que jamais, dans ce déluge de grâces spirituelles nouvelles, demeure intact le devoir de tout faire pour bien discerner toutes ces diversités, les discerner spirituellement et communautairement. Si les autorités et les pasteurs en certains milieux s'avouent ou s'avèrent inaptes à le faire, temporairement j'espère, il faudra procéder en intensifiant les démarches individuelles, ailleurs et autrement, et communautaires, tous ensemble, sous la mouvance de l'Esprit. Passons maintenant à la dixième partie, qui est la dernière, et qui s'intitule, contrairement à celle que nous venons de quitter, qui était l'unité dans la diversité, ici c'est l'unité dans l'adversité. Voyons d'abord, au chapitre 1, qu'il y a deux menaces constantes à notre élan d'amour envers le prochain. Et je les appelle pour fin d'exposé, la douche froide et la douche chaude. La douche froide, c'est lorsque on veut vraiment donner de l'amour de Dieu à l'autre et que on reçoit un accueil froid, un non-retour ou même une fin de non-recevoir. La douche chaude, c'est quand on écope de la part des autres une attitude d'agressivité, soit occasionnelle, soit cyclique, soit habituelle, ou que l'autre nous attaque durement, même si on lui présente l'amour de Dieu de façon fraternelle et communautaire. Voyons d'abord la première situation, quand on n'a pas de retour d'amour de son frère ou de sa sœur, donc on est sué une douche froide. Eh bien, l'attitude à prendre, c'est de ne pas s'en faire. L'accepter. Continuer quand même à lui transmettre l'amour du Père. On n'a aucune responsabilité à assumer à sa place. S'il n'accueille pas cet amour, s'il ne redonne pas cet amour, on doit rester en paix. Pensons d'ailleurs que Dieu aussi essuie des non-retours, des fins de non-recevoir, des douches froides. Et si lui, Dieu, en donnant son amour directement, ne réussit pas toujours, il faut bien s'attendre qu'il peut être de temps en temps, la même histoire peut nous arriver à nous aussi. Donc, comme lui, persévérons. Deuxième réflexion, ne cessons jamais, même si l'autre ne change pas, de lui donner notre amour. D'abord parce que on deviendrait soi-même plus malheureux si on cessait. Parce que l'amour qu'on veut donner au prochain, c'est de l'amour que Dieu nous donne. Et il faut le donner. Sinon, on est mal à l'aise de le garder, même si l'autre ne veut pas en tirer profit. Il faut continuer à lui donner la bienveillance et l'amour. Et deuxième raison, c'est que si on cesse de donner de l'amour à l'autre, il sera encore plus malcommode si on cesse de l'aimer. Parce que s'il est déjà malcommode quand il est aimé, il sera encore pire s'il devient non-aimé. Tournons la médaille de côté, et si nous sommes, nous, de ceux ou de celles qui ne donnent pas de retour d'amour, donc qui donnent des douches froides à ceux qui viennent vers nous, ben, il est grand temps d'y voir, et ça presse. peu importe la raison connue ou pas, de ne pas donner de retour d'amour à des gens qui se donnent la peine de venir nous donner de l'amour de Dieu. Que ce soit son foi, ses blessures, son caractère, ses souffrances, ça n'a pas d'importance. Car tout cela devra être compris et pratiqué avant d'être amis dans la communion des saints. On entrera vraiment dans l'éternité, dans le bonheur éternel, que lorsqu'on sera apte à des allées et retours d'amour. Il faudra donc, pour entrer au ciel, avoir purifié tous ces refus d'amour, ces non-retours d'amour aux autres, nos élans retenus alors que les autres font des démarches vers nous. Tout cela devra être purifié dans l'ambassade du purgatoire si on ne se donne pas la peine de s'en corriger le plus tôt possible dans sa vie. Parlons maintenant de l'autre menace que j'appelle la douche chaude, c'est-à-dire quand l'autre qu'on veut aimer est comme un volcan qui crache du feu au moment où on s'y attend le moins. Voici encore quelques conseils d'amis. D'abord, dans toute la mesure du possible, quand ça se présente de temps en temps, qu'on a affaire à des caractères qui sursautent comme ça, qui font éruption, ben, commencez un peu à prévoir les éruptions et s'habituer à canaliser la lave du volcan. Essayez de comprendre ce non-contrôle qui amène l'autre à exploser. Comprendre que souvent, s'il explose à nous, ce n'est pas contre nous, personnellement, qu'il en veut. Mais c'est un peu malgré lui ou elle. C'est que ça bouille au-dedans. Comme un volcan. Le volcan ne fait pas éruption pour s'en prendre aux villageois qui sont près de là. C'est parce qu'il n'en peut plus. Il crache le feu. Il s'agit donc souvent d'une personne qui se croit, qui se sent ou qui se veut détestable ou détestée. Donc, l'aimer quand même de plus en plus, l'aimer et lui pardonner, c'est encore la meilleure solution à tous les points de vue. Donc, ce n'est pas être contre les diversités de différer humainement. Nous reflétons tous ce même Dieu et il doit être perceptible en nous. Ce par quoi nous sommes différents, même du tout au tout, nous est commun en Dieu. Comment pouvons-nous accepter là, des diversités très diverses, très marquées? Bien, c'est que toutes ces diversités-là se retrouvent en Dieu. Nous autres, on n'a pas le génie capable de voir tout cela. Mais, donc, nos différences, on ne doit pas essayer de les assumer du dehors, à coup d'effort, de coup de volonté, de violence, à regret, en les tolérant, en les endurant, ces diversités. Mais on doit les intégrer de l'intérieur à la motivation même de notre charité pour le prochain. Comme j'aime, comme Dieu, j'aime tout ce que Dieu a créé et veut sanctifier, y compris les choses que moi, je ne comprends pas. Passons au deuxième chapitre de cette dixième partie. En cas de violation du « aimons-nous les uns les autres », deux grands devoirs incombent aux personnes concernées. Le pardon de la part de l'offensé et la réparation de la part de l'offenseur. Dans Matthieu 6, versets 14 et 15, et je cite, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Dans Marc 11 et 25, et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous ou nous a pardonné en Christ. Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres, et s'il y a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. Rappelons-nous cette lecture de l'hymne à la charité que nous avons lue au début. Quand il dit que c'est le lien parfait, c'est-à-dire qu'il attache toutes les vertus chrétiennes ensemble. La charité est la reine des vertus. Et nous, comme une ceinture, le vêtement nouveau, c'est le lien qui unit les membres du corps. Vous êtes appelés tous en un seul corps. Et dans Matthieu 18, 21, 22, alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois. » Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. » Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire sans limite. Je n'ai pas l'intention, mes chers amis, aujourd'hui d'aborder ici, dans cet enseignement, toute la question de la nature, de l'importance ou de la portée du pardon divin comme tel. Je vous réfère aux enseignements excellents qui existent déjà. On aura sans doute l'occasion d'y revenir un jour, si Dieu le veut et Matthieu le peut. Je voudrais plutôt attirer notre attention sur quelques conseils pratico-pratiques concernant nos démarches ou nos attitudes habituelles de pardon auprès de nos frères et sœurs. D'abord, précisons qu'il y a un certain défaut à corriger. Quand il y a un heurt entre deux personnes, et qu'il est perçu de part et d'autre. Le regret, tout autant que le pardon, doivent être verbalisés de part et d'autre. On ne doit et on ne peut pas se contenter d'une reprise aimable et souriante de conversation comme si rien ne s'était produit. Et on a tort de croire que c'est plus vertueux de procéder ainsi. Judoka se trouve à garder alors une porte d'entrée. Il y a des gens qui s'affrontent, il y a un incident, puis tout ça, et puis, après ça, un petit temps s'écoule, puis là, ils font comme si rien n'était arrivé dans leur vie. Ça, c'est risqué, et ce n'est pas ce qu'il y a encore de plus charitable. Pourquoi? C'est que dans le « aimons-nous les uns les autres », il faut se dire la vérité, faire la lumière au fur et à mesure. Et cela exige de l'humilité, de la simplicité pour revenir sur le sujet sans se heurter à nouveau, avoir assez d'amour pour pouvoir progresser à même cette impasse. Mais il faut le faire car la plaie ne sera jamais nettoyée comme il faut. Et s'il y a des leçons à tirer et des résolutions à prendre, il faut en parler. Autre conseil d'amis, il y a 3 phases importantes à ne pas escamoter. Pour devenir vraiment pardonnant envers les autres, il faut d'abord se rappeler que Dieu lui-même m'a déjà tout pardonner à 100%. Pour être vraiment pardonnant, il faut se sentir vraiment pardonné. Deuxièmement, Il faut être capable de se pardonner soi-même. Apprendre à être pardonnant envers soi-même. Car on ne peut pas être pardonnant comme il faut envers les autres si on n'est pas pardonnant envers soi-même. Il faut d'abord, pour être pardonnant envers soi-même aussi, apprendre à se mettre parfois en accusation, sans drame, sans culpabilité, mais sans fuite, sans excès dans un sens ou dans l'autre. Car si on ne se reconnaît pas ou ne se reconnaît jamais pécheur, on n'apprend pas à se pardonner, et par voie de conséquence, on ne sait pas pardonner aux autres. C'est une question, encore une fois, de faire face à la vérité de son être. Être un être de vérité avant de prétendre être un être de charité et de miséricorde envers les autres. La difficulté à accepter les erreurs des autres et de ne pas en être bouleversé, à ne pas nous sentir mal quand nous errons nous-mêmes, c'est que nous ne nous accusons pas suffisamment nous-mêmes. Donc il nous faut apprendre à nous regarder et à nous juger comme lui, avec Dieu et avec lui. Et ainsi, nous en ferons de même avec les autres. Autre réflexion sur la culpabilité et la repentance. De même que la perfection est souvent la caricature de la sainteté, la culpabilité est la caricature de la repentance. On fait souvent une grave erreur de nos jours. Sous prétexte de ne pas peiner ou culpabiliser les gens, on omet de leur parler d'offense et de repentance. Donc de leur dire franchement la vérité, avec, bien entendu, charité et liberté. Or, de facto, à cause de notre omission, on leur nuit gravement, car ils restent, eux, aux prises, tout seuls, avec une culpabilité, qu'ils vont traîner et essayer en vain d'étouffer, car ils savent qu'ils ont fait une offense. Et on ne leur en parle pas. Alors ils reviennent nous voir et ils se déclarent misérables, indignes, et essaient d'attirer notre pitié. Et c'est lourd à porter pour les deux parties, celle qui a fait l'offense puis qui a la difficulté à se l'avouer, et la personne qui a été témoin de l'offense et qui n'a pas eu le courage de dire « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Alors que, chrétiennement, il faut immédiatement, pour en finir, rétorquer à l'autre. Oui, c'est vrai, tu as offensé. Oui, c'est vrai, tu as blessé telle personne. Oui, c'est vrai, tu as fait une gaffe. Mais, chanceux es-tu de pouvoir t'en repentir, le regretter et avoir son pardon total à lui, le Seigneur, et le mien ou celui de l'autre, si tu veux te donner la peine d'aller le lui demander. Et la personne, à ce moment-là, est libérée, car elle a reconnu son offense, elle a posé le geste de repentance, et elle n'est plus empoisonnée par la culpabilité. Dans les Actes 2, 37-38, ils disent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répondit, « Repentez-vous. » Autre réflexion. Avant de pardonner, il faut exiger la reconnaissance de la faute par l'offenseur. Non pas d'une façon pour l'humilier ou l'écraser, mais on trouve dans Saint-Luc le texte suivant, Luc 17, 3, 4 et 5. Si ton frère a commis une faute contre toi, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. même si 7 fois par jour, il commet une faute contre toi. Pourquoi ça? Parce que s'il ne croit pas avoir offensé ou erré, il ne peut apprécier le pardon. Le pardon est vide de sens parce qu'il ne présente pas la gratuité d'amour divin. Ça a l'air juste une formalité. Et c'est pour ça que beaucoup de pardons passent dans le vide et sont sans effet. Le pardon de Dieu est un pardon d'amour et de miséricorde qui nous est octroyé en fonction de nos fautes. Et on ne peut pas aller lancer des pardons comme ça, à tout va, sans qu'elle se rattache à la raison qui est une offense qui fait que on apprécie cette grâce de pouvoir être pardonné. Donc, faire de vifs reproches, comme on vient de le lire dans l'Évangile, veut dire bien désinfecter la plaie, mettre de l'iode ou de l'alcool pour ne pas la laisser s'infecter à nouveau. Car tous ces actes présupposent la connaissance des faits et des personnes dans la vérité, non voilée, non embellie ou trahie par le moindre fard ou artifice. Et d'ailleurs, à l'expérience, je vous avoue que j'ai toujours constaté que le Seigneur n'accorde ses grandes grâces, entre autres, de libération, de guérison, de conversion, d'inspiration spéciale et même d'appel, que lorsque les personnes concernées voient bel et bien, en vérité, la réalité qui doit changer. Dieu n'aime pas faire des guérisons ou des libérations floues. Il retarde souvent jusqu'à ce qu'on reconnaisse son tort, sa maladie, sa faiblesse, sa détresse, son besoin. Bref, qu'on accepte de faire face à la vérité. D'ailleurs, c'est la même chose dans tous les autres domaines. En médecine, on ne gagne rien à farder la vérité. Si c'est un cancer, il faut le traiter comme tel, les troubles cardiaques, le sida, les problèmes digestifs. La mécanique d'automobile, c'est la même chose, les pannes électriques. Donc, ne pas farder la vérité, même celle des erreurs, des lacunes et des faiblesses. Et encore une fois, j'insiste pour dire que là, il ne s'agit pas d'amener quelqu'un à reconnaître l'offense et se servir de cette reconnaissance pour l'écraser, l'humilier, désécuriser, mais pour célébrer avec cette personne le fait qu'on est capable, dans l'amour de Dieu, de se pardonner, quelle que soit l'ampleur de l'offense. Disons quelques points, quelques réflexions maintenant sur le non-pardon et ses conséquences. La première conséquence d'un non-pardon, elle est sérieuse, car c'est comme si on demandait au Seigneur d'être encore plus sévère envers nous. En refusant le pardon à quelqu'un, on se trouve à inviter le Seigneur à durcir lui aussi son attitude envers nous, parce que on ne veut pas accorder pleine mesure de pardon à l'autre, quand le Seigneur nous le demande et nous donne la grâce de le faire, c'est comme si on disait au Seigneur, bien, vis-à-vis moi, je n'ai pas besoin de la pleine mesure moi non plus. On connaît cette parabole de l'Évangile, parabole du serviteur qui a été pardonné généreusement par son maître miséricordieux, à qui il devait de l'argent, puis il ne pouvait pas rencontrer ses termes, ses comptes, mais qui, à son tour, s'en va étrangler et emprisonner ses propres débiteurs. Deux poids, deux mesures. Et Jésus dit, « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Donc, on a beau pardonner à 500, 10 000 personnes, si on ne pardonne pas à un seul, on établit un déséquilibre dans nos chances d'être pardonnés nous-mêmes. Le pardon du Seigneur vaut pour tous et pour tout. À moi, l'un de ses bénéficiaires, donc, d'agir de la sorte. Deuxième conséquence du non-pardon, ce qui reste en moi de haine ou de non-pardon empêche toujours son amour trinitaire de venir en moi, car le non-pardon est du non-amour. Pour un ou deux non-pardons, je bloque le bon fonctionnement de mon RCA, de mon récepteur cœur-amour. C'est de la suie dans la cheminée. Troisièmement, on perd habituellement toute objectivité vis-à-vis de ceux et de celles qu'on repousse, à qui on ne pardonne pas pour telle ou telle raison. Ils ne nous plaisent pas, on ne les trouve pas de notre goût et tout ça. On perd toute objectivité au point que si ces gens-là changent, on ne s'en aperçoit plus. En conséquence, tout ce qu'ils disent ou font par la suite est mal compris, est accueilli, alimente notre non-pardon et tout conduit à la bouillabaisse. Et si le Seigneur voulait nous enseigner et nous aider et nous inspirer par eux, car souvent il joue ce tour-là, il passe par ceux qui nous ont fait mal pour nous faire du bien, tout est compromis. Et quand on ne pardonne pas, enfin, on s'empoisonne de plus en plus. Un non-pardon sécrète des toxines et celles-ci rendent le pardon de plus en plus difficile. Et à l'origine de bien des ulcères, des insomnies, des courbatures, de tout ce que vous voulez, il y a un ou des non-pardons. Donc, il faut agir vite et le mieux possible. Donc, et concrètement, ça veut dire pardonner sans analyser, pardonner sur le champ, demander au Seigneur de nous montrer ce qu'il va en tirer de bien, etc. Il y a encore une autre conséquence à un non-pardon, c'est que ça retarde la croissance spirituelle de tout le monde, tant des individus concernés que de la communauté qui entoure ces individus et même de l'Église en général. Quand je retiens mon pardon, je me trouve, veux-veux pas, à prendre l'autre en otage, à le lier, à le retenir. Non seulement parce que je ne prie pas pour son mieux-être spirituel, mais parce que j'entretiens à son endroit des sentiments négatifs qui agissent, veut-veut pas, et se multiplient rapidement. En retenant un ou des pardons, je freine et stoppe ma propre croissance spirituelle, car la grâce est allergique à cet état de contradiction à la loi de Dieu, au nouveau commandement du Seigneur. Et enfin, comme dans la vie de l'Église, grâce à la communion des saints, nous sommes tous solidaires, pour le meilleur et j'oserais dire pour le pire également. Les égarements des uns, les non-pardons des uns, les froids entre frères, les sentiments non-chrétiens nuisent toujours à la vie communautaire. Et on me fait signe que le temps est écoulé, nous nous retrouverons tout à l'heure.